France Inter.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Lâcher prise, deux mots simples que l'on entend partout et qui ressemblent à s'y méprendre à une nouvelle tendance que l'on viendrait de découvrir. Ne serait-ce que dans les médias, on nous y invite avec beaucoup d'insistance et tous les slogans sont bons. On ne contrôle pas tout et c'est ok. Nos 10 conseils pour lâcher prise cet été, pourrait-on lire en une de notre magazine préféré? Le lâcher prise est convoqué comme une formule magique par tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à notre bien-être. Sur le papier, ces deux mots sont très tentants, mais est-ce que ça s'apprend vraiment? Du plus loin que je me souvienne, on ne nous l'a pas enseigné à l'école, ni même comment accueillir l'imprévu, vivre avec l'incertitude, voir le verre à moitié plein. Pourtant, certains y arrivent. Ils respirent, reculent, relativisent. Serait-ce une question de personnalité, d'expérience? La quête du lâcher-prise est-elle souhaitable à tout prix? Ce matin, dans Grand Bien vous fasse, nous répondrons à toutes ces questions et on attend vos témoignages au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter. Nous sommes le lundi 4 août. Grand Bien vous fasse, c'est tout l'été en direct pour vous accompagner.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Yasmine Oublis.
Victor, ta mère a un amant.
Hein?
Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui.
C'est qui?
Monsieur Borin.
Marié, deux enfants.
Maman, t'es complètement dingue ou quoi? Et où tu vas aller? Et papa, et moi? J'ai des problèmes, moi.
Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier. Moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père.
Je rêve.
Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de billes, je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes.
Maria Pacôme dans le film La Crise de Colin Serrault, sorti en 1992. Alors pour ne pas en arriver là, à ce trop-plein qui nous fait tout lâcher, ce matin, trois experts ont accepté de définir avec nous les contours et les conditions nécessaires à ce fameux lâcher-prise. Bonjour Vincent Tribou.
Bonjour.
Vous êtes psychologue clinicien au Centre des troubles anxieux et de l'humeur à Paris, co-auteur avec Anne-Hélène Claire de Devenez votre propre psy, publié chez HarperCollins. Bonjour Émilie Pernet.
Bonjour.
Alors vous n'êtes pas avec nous physiquement mais par téléphone, merci beaucoup à vous de prendre ce temps. Vous êtes hypnothérapeute et sophrologue, autrice de 5 minutes pour lâcher prise et le petit livre du lâcher prise édité tous les deux chez First. On compte sur vous pour nous donner quelques conseils pendant cette émission. Bonjour Philippe Haïm.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, auteur de Je désature, la méthode pour retrouver vos facultés et votre équilibre, coécrit avec Alicia Sandon, publié chez Marabout.
C'est ça.
Alors, ce terme de lâcher prise, j'ai regardé hein, la définition propre dans le dictionnaire. Il vient du verbe lâcher, abandonner, relâcher, et du mot prise, le fait de tenir, retenir quelque chose. Mais dans le langage commun, le lâcher prise est, j'ai l'impression, devenu une sorte de mot valise, un mot fourre-tout. Docteur Philippe Haïm, quelle est sa définition?
C'est très difficile de savoir quelle est sa définition. C'est pas un mot tout à fait officiel du vocabulaire de la psychiatrie ou de la psychologie. Moi, je le perçois plutôt comme une sorte, effectivement, d'injonction. On reconnaît bien les injonctions qui nous sont faites. Hein, c'est quand dans notre tête, on se dit « il faut ». Je dois, il faudrait, il faut que je lâche prise. Et comme beaucoup de ces injonctions, ben, parfois, quand il est pris trop rapidement, trop dans un sens premier, sans y réfléchir, il est très tentant hein, comme ça. Il faudrait lâcher prise, arrêter de tout contrôler, laisser venir les choses comme elles viennent. C'est pas forcément évident pour des gens qui, au contraire, dans la vie, ont besoin de s'accrocher. Mm-hmm. Demander à un alpiniste de lâcher prise, je pense qu'il sera pas tout à fait, il sera pas tout à fait d'accord. Et puis ça devient
et ce serait très dangereux.
Et ce serait extrêmement dangereux. Parfois, dans la vie, il faut s'accrocher. Et en même temps, le lâcher prise a ce côté paradoxal si on se dit qu'il faut le faire. Puisque c'est quelque chose qu'on devrait faire un petit peu spontanément. C'est un peu comme un photographe qui prend son appareil photo et qui vous dit « souriez naturellement ». Bah, le simple fait de vous l'avoir demandé, ça arrête déjà d'être naturel. Et donc, le lâcher prise, actuellement, est devenu effectivement à la fois un mot valise, un mot qu'on entend partout et qui est plein de paradoxes parce qu'en même temps, on lâche pas les injonctions au contrôle. Sur le même magazine, vous parliez des magazines, vous pourriez lire « Lâchez prise et acceptez votre corps tel qu'il est » et puis quatre pages plus loin, « Perdez 3 kilos avant d'aller sur la plage en été ». On pourrait entendre dans une entreprise « Prenez des initiatives » et puis on pourrait entendre en même temps « Suivez les règles ». Et ça fonctionne un petit peu comme une sorte d'injonction qu'on se met sur la tête. Voilà, là, ça va être l'été, alors il va falloir tout lâcher pour repartir en pleine forme à la rentrée. Et en vérité, les gens vont nous dire dans un mois, oh là là, au bout de 2 jours de retour au boulot, c'est comme si j'avais pas pris de vacances. Donc voilà, le lâcher prise, moi je le vois plus comme une sorte d'injonction qu'on lit un petit peu partout.
Une injonction à se relâcher. Docteur Vincent Tribout, pardon, vous êtes psychologue clinicien, ça vous évoque quoi le lâcher prise ?
Alors je suis d'accord avec vous qu'il y a une partie d'injonction comme le bonheur. Il y a le dernier livre de Louise Auberry sur la recherche du bonheur où on devient fou de le chercher et de ne pas le trouver. C'est qu'on est perpétuellement frustré de ne pas le trouver. Mais en même temps, c'est un concept qui est très vieux parce qu'on pouvait parler avant dans les troubles anxieux d'hypercontrôle. Par exemple, dans les TOC, dans la majorité des troubles anxieux, on est en contrôle pour éviter l'anxiété. Donc dans la psychiatrie, le lâcher prise, c'est un peu ce qu'on aimerait avoir quand on est prisonnier du contrôle. Mais c'est aussi très vieux quand on revient un peu à la thérapie ACT qui parle de diffusion, d'accès, acceptation émotionnelle et qui trouve ses racines dans la pleine conscience, la méditation bouddhiste. Ça, c'était il y a 2000 ans. On est déjà à cette époque, dans ce contexte de lâcher le contrôle, d'accepter ce qui vient. Et après, c'est devenu, je pense, plus un terme journalistique. Donc nous, on parlerait de contrôle, d'hyper-contrôle. Les journalistes ont pu se parler de lâcher prise. Puis après, ça fait un genre de gloubi-boulga où on ne sait plus trop qui dit quoi. Mais moi, j'ai l'impression, même en étant très récent, ça a quand même ses racines dans la philosophie grecque et le bouddhisme.
C'est assez rassurant que ça ait ses racines,
oui.
Finalement.
Oui.
C'est que ce ne soit pas quelque chose de...
Si c'est grec, c'est bien.
Voilà, on va se dire ça. Émilie Pernet, vous êtes avec nous. Quand on évoque le lâcher prise en tant que sophrologue et hypnothérapeute, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Oui, bah alors tout d'abord, je suis d'accord avec les docteurs sur le plateau. C'est effectivement une injonction. Aujourd'hui, le lâcher prise, bientôt, il va falloir apprendre à lâcher prise avec le lâcher prise. Pour pouvoir lâcher prise, il faut, comme l'a dit le docteur Haïm, il faut être en confiance et en sécurité. Donc en fait, pour apprendre à lâcher prise, on va travailler sur soi, revenir au corps, à l'ancrage, en sophrologie, en hypnose en tout cas, avoir des prises de conscience dans une société où justement la charge mentale, le perfectionnisme, la productivité, les notifications Internet sont omniprésents, on est sursollicité. On va au contraire essayer de revenir à la respiration, à la présence à soi, des choses très simples. Et c'est comme ça qu'on va travailler en hypnose et en sophrologie.
Alors dans votre livre « 5 minutes pour lâcher prise », vous dites que chacun met sa propre intention derrière ce terme. Expliquez-nous.
Comme l'a dit, je crois que c'était le docteur Haïm, c'est un mot « valise ». Donc ça dépend vraiment de la situation de chaque personne. On va dire à une mère de famille qui a une charge mentale énorme, « Oh, mais apprends à lâcher prise, tu n'es pas assez cool, voilà, t'es rabat-joie. » Mais c'est vrai que c'est très facile de dire ça. Le contrôle, ça a quelque chose de rassurant également. Donc chaque personne va vraiment mettre derrière ce terme de lâcher prise, le terme, l'intention en fait qui va lui faire du bien, qui va lui permettre de revenir au corps. On peut pas dire à quelqu'un « apprends à lâcher prise, va faire un massage » si la personne, en gros, va faire un massage et en a plein la tête, a sa to-do list dans la tête. Lâcher prise, pour moi, c'est apprendre à créer un espace. Et dans cet espace, on va mettre chacun son intention en fait.
D'accord, il faut évidemment que ce soit quelque chose de très personnel. Alors Philippe Haïm, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour certains d'entre nous de lâcher prise ?
C'est difficile du fait, ce qu'on a un petit peu survolé là, du fait de ces paradoxes dans lesquels on se trouve. C'est, ce qui est difficile, c'est de se trouver dans des injonctions qui nous mettent dans des paradoxes. Quand on est anxieux, effectivement, on a envie de contrôler ce qui se passe. L'anxiété... presque par définition, on va dire, enfin c'est pas la définition, mais disons que quelqu'un qui est anxieux a peur de ce qui pourrait se passer. Je dis souvent aux gens que l'anxiété, c'est quelque chose qui est tourné vers l'avenir. Je ne sais pas ce qui va se passer, par définition, je lis pas l'avenir, et j'ai peur que ça se passe mal. Donc, si j'installe les conditions d'un certain contrôle sur ce qui m'arrive, ça devrait me rassurer. Le problème, c'est que j'essaie de contrôler des choses qui sont incontrôlables, et puis du coup, je me retrouve dans un espèce de cercle vicieux du contrôle. Et donc, à la fois, on sent bien que vouloir tout contrôler, et notamment ce qui ne dépend pas de nous, là, on est chez les stoïciens, il y a 2000 ans aussi, vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous, c'est une impasse. Et en même temps, lâcher tout contrôle sur tout n'est pas aussi quelque chose d'acceptable. Et voilà, je pense que c'est difficile parce que aucun des deux extrêmes n'est bon pour nous. Et on le sent bien. Et c'est ça la vraie difficulté, c'est de trouver la bonne manière de l'aborder. Voilà, il y a quelque chose de très tentant dans l'hypercontrôle. Ah, oh, si je pouvais tout contrôler. Et en même temps, ça me bousille, ça me met très mal. Et il y a quelque chose de très tentant dans le fait de se laisser complètement aller. Ça a l'air tellement bien. Et en même temps, j'y arrive pas. Alors du coup, je m'accable en me disant « Mais t'es nul, t'arrives pas à lâcher, regarde, il y en a qui ont l'air d'y arriver. » Voilà. Et donc ça, c'est ça qui rend les choses difficiles. C'est qu'on ne cerne pas les contours du lâcher-prise.
Est-ce que notre éducation pourrait jouer un rôle dans notre faculté à lâcher-prise ou alors justement dans notre personnalité contrôlante ?
Alors oui, certainement, je me répète encore, mais je crois que c'est la même chose pour l'éducation des enfants. On les met souvent dans des paradoxes. Sois créatif, mais suis les règles. On les met dans beaucoup de paradoxes, les enfants, c'est assez compliqué. Détends-toi, mais sois concentré. Profite de tes loisirs, mais fais pas trop ce que tu veux. Va quand même là où je te demande d'aller. Donc effectivement, il y a quelque chose dès l'éducation où on ne cerne pas bien les contours de tout ça. Oui, c'est évident.
Vincent Tribout, comment savoir si on fait partie de ces personnalités contrôlantes ? Quelles questions peuvent se poser les auditeurs qui nous écoutent, par exemple ?
Alors d'abord, je voudrais un peu rembobiner, si vous êtes d'accord. Si vos auditeurs veulent vraiment comprendre ce que c'est que le lâcher-prise, on va prendre une métaphore très simple. Quand vous êtes fatigué le soir et que vous vous couchez, normalement, vous êtes censé vous endormir. C'est un mécanisme normal que de s'endormir. Ce qui est problématique, c'est pourquoi certaines personnes ne s'endorment pas du tout, pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous êtes fatigué, le cerveau, c'est son job de dormir. S'il n'arrive pas à dormir, là, c'est problématique. Moi, j'ai l'impression que le cerveau, le corps humain, il est naturellement dans le lâcher-prise. Vous êtes devant la télé, vous êtes absorbé par l'émission de télé. Par contre, si votre cerveau, il est anxieux, il est en hypervigilance, vous commencez à ruminer, là, il y a un problème. Donc, le fonctionnement normal du cerveau, c'est d'être dans le lâcher-prise. Il ne peut pas le faire si derrière, il a l'impression qu'il est en danger. Donc que ça soit les troubles anxieux, que ce soit un boulot qui est problématique avec un patron toxique, un management toxique, et les personnalités contrôlantes, qui sont souvent des personnes perfectionnistes qui ont été éduquées dans une maison où tout était très scolaire. Il n'y a pas beaucoup d'affection, c'est qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, comment ça s'est passé. Et ils ont été éduqués à cette notion, si tu n'es pas performant, tu n'existes pas. Et forcément, se reposer le dimanche, ce n'est pas possible pour eux. Parce que cette injonction, on revient toujours aux injonctions, qu'il faut toujours être en mouvement, sinon on est à moins que rien. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Il y a l'anxiété, il y a les conditions professionnelles, il y a le perfectionnisme. Il y a plein de choses qui vont concourir au fait que le cerveau ne peut pas s'éteindre. Donc trouve le lâcher-prise, ou même relaxe-toi, fais de la méditation, c'est cool. Mais si votre cerveau est en hypervigilance, il ne voudra pas forcément le faire. Puisqu'il est en mode, il est en mode danger. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il est en mode danger. Si on n'a pas compris pourquoi il est allumé, on ne pourra pas l'éteindre.
Les questions qu'il va falloir qu'on se pose aussi, c'est ce sur quoi on peut lâcher ou pas. Avant ça, Émilie Pernet, vous êtes sophrologue, vous êtes aussi hypnothérapeute. Vous aidez donc vos patients à atteindre de ce lâcher-prise. Quel bienfait vous observez chez eux quand ils y parviennent ?
Déjà, un grand sourire à la fin des séances. Juste le fait parfois de s'autoriser en fait. Enfin, après, c'est vrai que je voudrais juste souligner quelque chose. C'est que le lâcher-prise, aujourd'hui, ça peut aussi être un luxe. Parce que pour lâcher-prise, il faut être dans des conditions, comme on l'a dit tout à l'heure, de confiance, de sécurité. Donc voilà, il faut pouvoir aussi s'offrir le travail de s'autoriser à lâcher-prise. Quelqu'un qui travaille toute la journée à l'usine, qui est maman solo et qui, le soir, doit s'occuper de ses enfants, je ne sais pas si... Voilà, c'est un petit peu une injonction compliquée des fois de lui proposer de lâcher prise.
Yasmine Ouglis.
Sandrine ! Charlotte !
Grand bien vous fasse.
Maman, ça fait 3 heures, Christophe, il est enfermé aux toilettes, là.
Et tu feras au lycée, hein ? J'ai autre chose à faire que de m'occuper de vos histoires de chiottes !
Sur France Inter.
Lâcher prise, prendre du recul, de la distance, on y est régulièrement invité. C'est un thème qui vous a fait réagir, je vais lire quelques messages de nos auditeurs. Laure dit « Je ne comprenais rien à l'expression lâcher prise, un truc impensable pour moi. Aujourd'hui, je comprends mieux le laisser être. » Pourquoi pas cette autre appellation ? Claude dit « On me parle de lâcher prise dans les cours de danse, alors qu'en réalité, il faudrait être concentré pour réussir des mouvements, des chorégraphies, il faudrait se laisser aller, mais en réalité, ça ne marche pas. » Expression hautement contradictoire, on rejoint ce que disait tout à l'heure Philippe Haïm. Alors, par les médias, on y était invité, je le disais aussi, mais éventuellement aussi par notre entourage, et parfois même par notre employeur. Alors, Philippe Heim, lorsque le lâcher prise est conseillé par un collègue ou un supérieur hiérarchique, est-ce que c'est pas souvent pour celui qui donne ce conseil une manière de se dédouaner d'une situation dont il serait en partie responsable ?
Il pourrait, mais c'est surtout une manière de donner un conseil qui va vraiment laisser toute la responsabilité sur lui en lui disant « mais va jusqu'au bout, quoi. Lâche prise complètement ». Vous voyez, je trouve hyper intéressant l'exemple de la danse. C'est vraiment très intéressant. Moi, je ne sais pas danser, mais je joue un peu de musique et on va dire pareil sur l'improvisation. Improvise, lâche prise. Sauf que les meilleurs improvisateurs connaissent très bien la théorie et savent parfaitement le solfège et les gammes. Les meilleurs danseurs qui lâchent prise, c'est-à-dire qui expriment de l'émotion dans leur danse, connaissent parfaitement leur chorégraphie. Donc en fait, c'est là où je parlais des contours du lâcher prise. Ma collègue Alicia Sandon, qui a écrit le livre avec moi, donne souvent cette analogie en disant « supposons que vous avez un chien en laisse, que vous promenez dans la forêt, et le chien a très envie d'aller courir, d'aller gambader, mais vous ne voulez pas qu'il se perde, donc vous tenez sa laisse, vous lâchez pas prise sur cette laisse. » Mais admettons qu'à un moment, vous arrivez dans une clairière et vous voyez qu'elle est bien bordée, qu'il y a un petit peu des haies autour, qu'il ne pourra pas franchir, que vous avez vu sur le chien. Là, vous pouvez ouvrir sa laisse et lui dire « vas-y, va gambader, amuse-toi, cours dans tous les sens ». Le lâcher-prise doit se faire dans un cadre contrôlé. Je peux lâcher.
Il faut qu'on ait une certaine maîtrise.
Mais même, je dirais presque, encore plus de maîtrise. C'est-à-dire que si je sais dans quel cadre je contrôle, si j'installe les conditions du lâcher-prise dans un domaine, à un moment, dans un cadre, alors là, je vais vraiment en profiter. Mais une injonction globale au lâcher-prise, bah, ça ressemble à ce que vous disiez tout à l'heure. Finalement, quelqu'un de très anxieux, en stress permanent, en mode survie, on lui dit « fais de la méditation pendant 45 minutes », il ne va pas y arriver. Mais dans un cadre précis et contrôlé, à l'intérieur de ce cadre, on peut lâcher prise, comme le danseur qui contrôle sa chorégraphie peut lâcher prise sur l'interprétation, comme le musicien qui connaît sa musique va y mettre du sien et pas juste suivre la partition.
Voilà, Claude, vous qui nous écoutez, vous avez quelques éléments de réponse avec Philippe Heim. Est-ce qu'on peut revenir sur ces conseils qu'on peut nous donner, celui de lâcher prise, quel que soit le domaine dont il est question? Est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler de déni ou d'indifférence face à cette personne qui sature, Vincent Tribou?
Vous parlez du manager qui parle
Ou du proche qui conseille de lâcher prise.
C'est comme des parents qui disent à leur enfant, tu dois prendre confiance en toi. C'est un genre de mantra, on n'a toujours pas compris ce qu'on est censé faire. C'est plein de bonne volonté, c'est plein de gentillesse, mais il n'y a pas le manuel qui va avec, le manuel du meuble Ikea. Je ne sais pas si c'est qu'une façon de se dédonner. Je pense qu'il y a, oui, il y a sûrement beaucoup de gentillesse dans cette phrase, mais à partir du moment où on n'a pas la technique derrière, ça ne fonctionne pas. L'histoire du cours de danse, c'est génial comme exemple. Parce qu'on le voit aussi quand vous regardez The Voice et tout. Enfin, à l'époque, il y avait Mika qui disait « Allez, respire, de quoi tu as peur et tout ». Et c'est ça, « De quoi tu as peur ». C'est peut-être la phrase de toutes celles qui vont être prononcées, enfin, de celles que je prononce moi. De quoi tu as peur? Il y a un truc qui provoque que le cerveau ne peut pas s'arrêter. Et quand on parle des cours de danse, on a peur d'être idiot, on a peur de rater, on a peur d'être gauche. Et tant que ça, on n'a pas accepté que ça puisse arriver, votre cerveau ne peut pas lâcher prise. Quand vous voyez le pourcentage colossal de musiciens professionnels sous bêta-bloquants, qui ont quand même un niveau de professionnalisme extrême, s'ils sont sous bêta-bloquants, c'est que leur cerveau ne veut pas s'arrêter. Donc c'est pas aussi simple de lâcher prise même quand on est un grand professionnel. Le cerveau redoute quelque chose, il ne s'arrêtera pas tant que vous n'avez pas compris de quoi il vous protège. C'est très adaptatif aussi. L'hypercontrôle, il vient pas de nulle part.
Émilie Pernet, en tant qu'hypnothérapeute, est-ce que vous avez pu identifier ce que ça provoque chez vos patients lorsque le lâcher prise devient une injonction?
Ça rajoute encore plus d'injonctions, de pression. Et du coup, c'est encore plus difficile de lâcher prise, particulièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, dans une société, on est sursollicité. Et je trouve ça très bien, l'exemple des musiciens. Moi, c'est vrai que je reçois pas mal de personnes qui sont souvent en représentation des musiciens ou des acteurs, ce genre de métier. Et c'est difficile, en fait, de lâcher prise, d'être, comme on dit, dans le flow, dans la créativité. Lorsqu'on n'a pas de cadre ou de sécurité, et la question du perfectionnisme aussi, être capable de se dire « oui, je peux rater et je peux recommencer et ça n'enlève pas ma valeur, quoi, vous voyez ?»
Bien évidemment.
C'est ça qui est important.
Alors, la perfection, les injonctions, et pas les injections, à être performant sont partout, même lorsqu'il s'agit de l'éducation de nos enfants.
Être permissif ou avoir de l'autorité ? Le choix est cornélien et la société culpabilisante.
Dès qu'il est né, les grands-parents aussi, pardon maman, qui nous disent mais là il va avoir froid, là il va avoir machin. Et du coup on a toujours peur de mal faire.
On sait pas à quel moment on est bon et à quel moment en fait on pose des vraies règles et à quel moment en fait on en abuse.
J'en discute avec les parents qui me disent ah ben non, moi il a pas le droit d'aller sur un réseau social alors que moi je laisse plus ou moins mes enfants y aller. C'est là où pour le coup après on sent un petit peu une pression en disant ben mince, est-ce que j'ai bien fait ?
C'est difficile, Philippe Haïm, de ne pas tomber dans l'hypervigilance quand ça concerne nos enfants.
Ah, complètement. Je le cite très rarement, mais on dit cette phrase de Freud. Un jour, une femme lui a demandé « Docteur, vous qui connaissez la nature humaine, dites-moi comment je pourrais faire pour être une bonne mère ?» Et Freud aurait répondu « De toute façon, faites ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. » Voilà, donc je trouve ça très intéressant.
Il faudrait être des parents suffisamment bons,
et
comme, disait,
ça,
Winnicott.
Comme disait Winnicott. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que « suffisamment bon », j'avais lu la note du traducteur du livre qui disait qu'en anglais « good enough mother », c'est pas tout à fait la même traduction que « suffisamment bon enough », c'est privatif, c'est une mère juste assez bonne. Mmh. Et en fait, Winnicott, justement, explique bien qu'une mère juste assez bonne, c'est une mère qui fait ce qu'il peut en termes d'intention. Elle a l'intention de bien faire. Et je crois qu'en grandissant, on arrive beaucoup mieux à s'en sortir quand on arrive à se dire que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu, même s'ils ont fait de façon imparfaite, que quand on attribue, et c'est là où les gens vont mal, c'est quand ils attribuent des intentions carrément négatives, en disant « ils ont fait exprès de m'embêter ». Et donc je crois que faire ce qu'on peut est déjà pas mal, y mettre du bon sens, voilà, je veux dire, on n'a pas tant d'expérience que ça et de recul avec les réseaux sociaux. Au final, ça fait pas si longtemps que ça existe, un certain nombre d'entre nous sont nés quand Internet n'existait pas, et donc du coup, on ne sait pas si on fait bien. Si on fait complètement bien, un peu bien, et donc on fait comme on peut.
Mais alors du coup, est-ce que c'est souhaitable de lâcher à cet endroit-là, précisément ?
Ça dépend, ça veut dire quoi lâcher ? Vous voulez dire tout autoriser ? On a des infos sur le fait que passer beaucoup trop de temps sur les écrans, c'est pas très bon pour la cervelle de nos enfants. On a des idées aussi que couper un enfant d'un groupe social, faire en sorte qu'il soit complètement différent des autres en lui interdisant tout réseau social jusqu'à l'âge de 25 ans, pourrait aussi être embêtant aussi. On essaye de trouver la part des choses. On est toujours dans des injonctions sociales. Pour prendre un exemple complètement différent, comme cette maman qui disait « Mon enfant est très intelligent, je pourrais lui faire sauter une classe et en même temps, il est tellement bien avec ses amis dans sa classe. » Alors, il y a le côté intégration sociale qui est très important, il y a le côté réussite scolaire qui est très important et pas s'ennuyer en classe. On est toujours un petit peu dans le faire de son mieux et pour les injonctions sociales, essayer de comprendre qu'est-ce qui est important pour nous. Et c'est surtout ça qu'on oublie de se dire. Et non pas qu'est-ce qui est important pour les autres, qu'est-ce qui est important sur ce qu'il faudrait qu'on fasse. Mais qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est en accord avec mes valeurs ou qu'est-ce qui ne l'est pas ? Si on ne prend pas le temps de ce recul et de cette réflexion, et en tout cas moi c'est ce que j'invite mes patients à faire ou mes lecteurs ou autres, si on ne prend pas le temps de se demander ce qui est important, et il y a des méthodes pour ça, on ne peut pas décider. On est saturé d'injonctions, on ne sait plus où donner de la tête, et on a une petite tendance quand on est saturé d'injonctions, c'est largement démontré en psychologie sociale, à faire ce qu'on va nous dire. À se fier un peu trop aux autres. Et vous voyez bien le truc arriver, à se fier trop aux autres, on va faire ce qu'ils nous disent, et puis à faire ce qu'ils nous disent, on va se retrouver avec ces gens qui disent « mais je ne sais plus quoi répondre, et je ne sais pas dire non, je dis oui à tout le monde, je dis oui, et moi dans tout ça ?»
Oui, on en arrive à se perdre.
Vincent
Tribou, quel serait le risque de tout lâcher ?
J'aimerais déjà rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Ce que vous soulignez qui est hyper important, c'est qu'il ne faut pas décontextualiser ses conseils. Il faut faire ceci, cela. Ce n'est pas valable pour 70 millions de Français. C'est pas valable pour un enfant de 14 ans dit TDAH ne s'éduque pas de la même façon qu'un autre enfant.
De l'attention et de l'hyperactivité.
Voilà. Donc le truc, on va faire, toutes les familles de France vont faire comme on a dit sur Internet. Non, c'est une démarche individuelle qu'il nous faut. Tel enfant a tel profil et c'est peut-être plus intéressant de faire comme cela.
Il faut s'adapter, s'approprier.
Voilà. Sinon ça devient des mantras et ça fonctionne pas.
Créer la balance entre le lâcher prise et le contrôle. Mais justement, alors trouver cet équilibre entre le bon contrôle et le lâcher prise, ça peut peut-être déjà passer par ce qu'on peut lâcher ou pas. Donc, vous proposez parfois à vos patients un exercice intéressant. Vous leur proposez de se mettre dans la peau de la personne qui serait plus tard.
Oui, c'est un exercice de thérapie ACT de Tal Ben-Shahar, je crois, qui dit si la personne, si vous, à 80 ans, vous preniez une machine à remonter le temps et vous veniez et vous vous posiez là, à côté de vous, qu'est-ce que cette personne, forte de sa sagesse et de ses 80 années sur Terre, aurait à vous conseiller là, tout de suite, maintenant, sur ce qui vous arrive ? Ça, c'est hyper intéressant. Après, lâcher le contrôle, c'est compliqué. Là, j'ai regardé hier BFM, 200 noyades depuis le mois de juin.
Oui.
Moi, mon père est pompier, il a ramassé un paquet de gamins qui se sont noyés dans la piscine de la maison parce que les parents étaient juste à côté. Parce qu'on ne se dit pas qu'un enfant, ça va être aspiré par une piscine, parce qu'un enfant, c'est immature, ça ne réfléchit pas. Donc, lâcher le contrôle en vacances, on est censé tous le faire. Vous avez une piscine à côté, méfiance. Donc, c'est très compliqué parce que vous ne savez pas forcément qu'une piscine, ça peut être dangereux. Vous ne savez pas forcément que faire ça, ça peut être dangereux. Donc, c'est une grande question, ça demande beaucoup de compétences, ça demande beaucoup d'informations. Je pense que c'est pareil pour les maladies, c'est pareil pour plein de choses. Si vous n'êtes pas informé que, bah vous ne pouvez pas le savoir. Et là, on dépasse le psychologique, on dépasse le développement personnel. Nous sommes quand même des individus bougeant dans un environnement qui est dangereux.
Bien sûr.
Et quand on arrive en disant « il faut lâcher prise », moi, je n'ai pas envie de lâcher prise sur le soleil, sur des grains de beauté. Je n'ai pas envie de lâcher prise sur le fait qu'on apprend que certaines crèmes solaires contiennent des trucs qui sont cancérigènes.
Bien sûr.
Donc, il faut faire attention. Donc, nous avons un débat qui est psychologique, mais nous sommes quand même des individus, des masses organiques faites de viande et de compagnie qui avançons dans un environnement où il y a plein de dangers.
Yasmine Ouglis.
Est-ce que vous connaissez les faiblesses ?
Si, je suis un petit peu trop perfectionniste, ça oui.
Grand bien vous fasse.
Il me faut toujours le meilleur, sinon rien du tout. Mais là, cet entretien, je veux dire, là je le sens bien, là tu vois. J'ai l'impression que ça se passe pas mal, non ?
Sur France Inter.
Lâcher prise n'est pas qu'une question de volonté, on l'a compris grâce à nos invités. Il faut d'abord identifier à quel endroit le lâcher prise nous serait profitable pour ensuite passer à l'action. Et vous qui nous écoutez, avez-vous identifié des moments où vous parvenez à lâcher ? Si vous avez des techniques à nous partager, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. Katel dit par exemple, après un épisode de burn-out cette année, j'ai commencé le théâtre. Cela m'aide à lâcher prise avec moi-même. Mais on va aborder d'abord un autre sujet.
Le cadre d'Antibes l'été, un panorama de rêve idéal pour décompresser, mais le travail s'invite aussi en vacances. Un mail à envoyer, une urgence à traiter, les tablettes et les téléphones portables sont partout sur la plage.
Si on m'appelle, les messages sur la messagerie justement, répondeurs, SMS, les mails, les choses comme ça quoi. Si on a besoin de me joindre, je suis joignable.
Je regarde mes mails deux fois par jour, tous les jours. Je veux savoir ce qui se passe dans mon entreprise, même si je suis en vacances, c'est pas grave. Je le ressens pas comme une obligation, c'est aussi de la curiosité de savoir ce qui se passe. Et comme ça, j'ai pas une grosse quantité de mails quand je rentre.
Je regarde pas du tout mes emails, tout ce qui a rapport boulot quand je suis en vacances, en aucun cas je regarde. Ma vie n'est pas que le travail et qu'à partir du moment où je pars du boulot le soir ou encore plus quand je suis en vacances, c'est besoin de déconnexion totale, sinon c'est pas des vacances.
Un extrait du JT de France 2 de août 2020. Philippe Haïm, est-ce que les vacances sont le moment où on devrait s'obliger à déconnecter ?
Pour être un peu provocateur, je dirais que non. Il y a un très grand piège pour justement déconnecter, désaturer, c'est de le faire aussi dans les extrêmes. De passer beaucoup de temps à être complètement saturé d'injonctions, d'instructions, de cognitions permanentes pendant toute l'année. De passer deux semaines en vacances à tout lâcher et de se dire ça va aller. Et c'est exactement là qu'on entend, et on va l'entendre dans un mois là, on entendra « je suis revenu au boulot ». Et au bout de deux jours de travail, j'ai perdu tout l'effet de mes vacances. C'est comme si j'en avais pas prise. Voilà, ça, c'est le grand piège des vacances. C'est le grand piège de tout donner pendant la semaine, de tout lâcher le week-end. C'est le grand piège de se dire, lâche prise, va faire un spa, va faire un massage, comme on disait tout à l'heure. Et puis, on va aller faire un massage avec les cognitions complètement saturées de boulot, en culpabilisant de prendre du temps pour soi alors que les autres travaillent et que j'ai pas fini ce que j'avais à faire. Et puis, en fait, on va perdre tout l'effet. Alors, je ne dis pas qu'il faut pas prendre de vacances. Nous sommes début août. Si vous ne l'avez pas encore fait, prenez des vacances, détendez-vous, reposez-vous, prenez le soleil, allez voir du pays, ça fait du bien, c'est sûr. Mais si vraiment on veut ne pas finir dans cet état d'épuisement au moment des vacances, et si on ne veut pas perdre tout l'effet de nos vacances au bout de deux jours, il faut apprendre à déconnecter et à désaturer de façon efficace, régulière, au quotidien. Sinon, on n'y arrivera pas.
C'est-à-dire au quotidien, s'inviter à faire une pause. Et pendant les vacances, puisqu'on parle du fait de rester connecté, peut-être rester un tout petit peu connecté ?
Alors, ça dépend. Effectivement, si ça va être une source d'encore plus d'angoisse de ne pas du tout être connecté, voilà, moi je pense que c'est bien d'avoir un intervalle où on ne se connecte pas du tout. Ça peut ne pas faire de mal, ça peut reposer le cerveau de se connecter à d'autres choses, et notamment à des choses beaucoup plus corporelles, beaucoup plus vécues. Maintenant, si ça doit augmenter l'angoisse, c'est pas la peine de lâcher complètement. Mais ce qui est important, c'est vraiment dans l'année, faire des pauses et pas n'importe quelle pause, des pauses qui soient des vraies pauses, des pauses qui désaturent nos cognitions, c'est-à-dire nos pensées, qui vident un peu notre mémoire de travail. C'est-à-dire que globalement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans notre livre, on a tendance à faire des fausses pauses. Si je fais une pause en sortant à l'extérieur, boire un café, en discutant en boulot avec mes collègues, je fais une fausse pause. Je fais une pause où mes cognitions continuent à travailler. Mais même si je fais une pause en scrollant mon téléphone, je fais une pause où mes cognitions sont mises en jeu. C'est-à-dire que je continue à réfléchir et les gens me disent « Oui, mais je regarde des bêtises sur Instagram avec des... » Oui, mais quand même, je regarde une blague sur Instagram, je réfléchis pour la comprendre, je me dis « Tiens, je vais l'envoyer à un tel, ça va le faire marrer, puis j'attends sa réaction. » Je continue à être dans le cognitif, même si je lis...
Et si je réserve mes vacances aussi, alors ?
Mais oui, je suis en train d'utiliser mes cognitions, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'on appelle la mémoire de travail, qui gère les informations et qui les ordonne, etc. Et donc, me remets à mon travail, ma boîte est encore pleine d'informations que j'ai pas vidées, et j'en ai rajouté d'autres, et donc j'ai pas fait une pause au sens cognitif du terme.
Une pause, ce serait une sorte de rêverie ?
Une pause, c'est quelque chose qui est passé de « je réfléchis » à « je ressens ». C'est-à-dire, pas l'exemple que je donne souvent, vous voulez boire un café, buvez un café. Mais au lieu de boire un café en scrollant les réseaux, au lieu de boire un café en discutant avec les collègues, sentez la chaleur de la tasse autour de vos mains pendant 3 minutes. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple. Et ne faites rien d'autre. Vous voulez marcher dehors, allez marcher dehors. Mais pour sentir le vent sur votre visage, et c'est tout, ne faites rien d'autre. Vous voulez faire un exercice de respiration, faites-le 30 secondes, 3 minutes maximum. Mais juste simple, sentez l'air qui passe dans vos narines ou vos épaules qui descendent. Quelque chose d'extrêmement simple, de pas très ambitieux, mais à intervalles réguliers, et ça respecte le cycle naturel de notre cerveau et ça débranche les cognitions. 3 minutes de pause 4 fois par jour pendant l'année, c'est ça qui permet de ne pas être complètement rincé le week-end ou aux vacances. Bon, il y a des méthodes à suivre pour ça, et ce qui permet de ne pas avoir cet effet terrible qui est vraiment une source de souffrance, et je le sais, je l'ai vécu aussi, de revenir de vacances et de se dire... Bon, ça, on dirait que je ne suis pas parti, quoi.
3 minutes de pause, 4 fois par jour, ça ressemble à une ordonnance. Et c'est un médecin qui nous l'a prescrit, donc on va l'écouter. On va écouter aussi Marianne. Vous êtes en ligne avec nous, Marianne, ce matin ?
Oui, bonjour.
Bonjour, alors vous avez votre astuce ?
Oui, en fait, c'est plus qu'une astuce, en fait. C'est une pratique depuis 11 ans maintenant, du mouvement spontané dans le Qigong.
Le Qigong, c'est une pratique sportive ?
C'est une pratique, sportive plutôt de décontraction, de gymnastique plutôt, oui.
Et vous,
chinoise en fait.
J'ai pas entendu vous pratiquer à quel rythme ?
Je pratique 3 heures en club une fois par mois, le dimanche matin, et je pratique au quotidien toute seule à la maison, pour compléter.
Ah voilà, donc au quotidien, on rejoint ce que nous disait le docteur Philippe Haïm. Vous pouvez nous répéter l'ordonnance s'il vous plaît, docteur ?
Passer entre 30 secondes et 3 minutes tous les jours, plusieurs fois par jour, à faire une déconnexion cognitive, ce que dans notre livre on appelle une pause reset, pour remettre à zéro comme un ordinateur. Parce que c'est ça qui va vous permettre en fait, de ne pas être saturé de cognition le soir et de ne pas avoir encore ce stress aussi qui vous empêche de dormir. Si on a trop de cognition dans la tête, si notre mémoire de travail est pleine, on arrive à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est que je dois les traiter. Si je dois les traiter, je ne dois pas me relâcher, je ne dois pas m'endormir. Et le meilleur moyen de ne pas s'endormir, c'est le stress. Donc notre cerveau va produire des hormones de stress pour nous maintenir en état d'éveil et on va finir la journée. On ne supporte plus rien, il n'y a plus une info qui rentre. Vous rentrez, il y a votre enfant qui dit « Bonjour maman, comment ça va ?» Et vous dites « Ah, arrête, laisse-moi tranquille, laisse-moi enlever mon manteau !» On ne supporte plus la moindre cognition supplémentaire. Il faut désaturer.
Alors, désaturer, pour souffler, pour se déconnecter, on l'a compris, à chacun sa technique.
Installe-toi confortablement. Assis ou allongé. Se concentrer sur l'instant présent. À 35 ans, Alicia Pérez pratique la méditation de pleine conscience. Elle s'y est mise il y a 4 ans pour venir à bout d'un stress devenu envahissant.
J'étais très stressée, en fait, particulièrement au travail, mais aussi en général dans la vie. Et j'étais une personne aussi de nature plutôt anxieuse.
Une pratique qu'elle a pleinement intégrée à son quotidien.
Quand je fais quelque chose, je peux être concentrée sur ce que je suis en train de faire, apprécier le moment, sans être en train de penser à 1000 choses à la fois. Beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisée, c'est vrai.
Émilie Pernet, vous êtes toujours avec nous. Vous avez écrit 5 minutes pour lâcher prise. Vous préconisez donc, comme le docteur Philippe Haïm, de prendre le temps chaque jour, de prendre du recul grâce à des petits exercices. Prendre du recul, ça passe avant tout pour vous par respirer, penser ou encore ressentir ?
Oui, tout à fait. Je suis vraiment d'accord avec ce que disait le docteur Haïm. Et ça va être des petites minutes comme ça qu'on peut s'offrir chaque jour pour muscler en fait ce muscle du lâcher prise. Et finalement, ça peut même être, vous voyez, des moments très simples. Par exemple, vous êtes dans les transports en commun et on profite de ce moment au lieu de scroller sur le portable pour faire un petit peu, par exemple, de respiration, de cohérence cardiaque, revenir au corps, ressentir. Et faire cette pause.
Sur la respiration, finalement... il y a des astuces timées.
Aujourd'hui, on a plein de. Il existe justement plein d'applis, mais l'essentiel, c'est justement de les approprier, ces respirations, et de les pratiquer tout seul. Par exemple, je parlais de la cohérence cardiaque qui est hyper simple et justement qui peut être pratiquée plusieurs fois par jour dans toutes les circonstances. C'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration pendant 3 minutes, 3 fois par jour. Là, c'est l'idéal, hein, c'est l'ordonnance parfaite du docteur Haïm, comme on a dit tout à l'heure.
On inspire 5 minutes, on expire
5 secondes.
Oui, parce que 5 minutes, c'est compliqué. 5 secondes, on inspire, 5 secondes, on expire. On peut imaginer un triangle qui monte, on fait une flèche vers le haut, on inspire.
On peut imaginer, oui, voilà, une vague ou peut-être un carré, voilà, ou un triangle, la forme que vous voulez. L'essentiel, c'est vraiment de se concentrer. En fait, ce qui est important, c'est comme vous allez être obligé un petit peu de compter, ça va vous couper aussi le mental et vous faire revenir au corps. Et ça va couper un petit peu cette discussion, justement, du mental qui tourne en arrière-plan comme une petite roue là, qui traite tous les dossiers en attente. Ça va permettre, en fait, de créer une relaxation très simple dans toutes les circonstances de la vie.
On l'a bien compris, ça c'est une technique qui est très concrète, qu'on va pouvoir tous essayer de s'appliquer au quotidien. 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, et on répète. Vincent Tribut, vous êtes psychologue clinicien au centre des troubles anxieux. On parlait tout à l'heure de confiance en soi, de s'autoriser à rater. Comment calmer les angoisses qui peuvent nous empêcher de lâcher ?
Alors, ben là, on revient à l'identification du pourquoi mon cerveau est allumé. La sophrologie, la respiration, la pleine conscience, c'est super parce qu'on va calmer l'organisme. L'organisme, il est en saturation et on va redescendre. Mais notre cerveau ne va pas forcément lâcher l'affaire aussi simplement. Là, le cerveau, il va dire « Ok, c'est bien sympa, là, tu viens te calmer, mais moi, désolé, je vais repartir en bon chien de garde à protéger ta vie. Ça, l'échec, le licenciement, déplaire, rater, ça n'est pas tolérable. » Donc, il faut vraiment qu'on comprenne pourquoi je suis dans tous mes états. C'est quoi le pire qui va me tomber dessus ? Vraiment le pire. Il faut
qu'on va se poser des questions à soi-même.
Eh bien oui, on va se poser avec une feuille de papier, on va se dire « Ok, je n'arrive pas à lâcher prise car là j'estime qu'il y a un danger. C'est quoi ce danger ? Qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Je vais être licencié, on va se moquer de moi, on va me dire « T'es gros, on va me dire « T'es machin, ah t'es toujours le seul à pas avoir d'enfant, ah mais comment ça se fait à 40 ans, machin ?» Ok, c'est ça qui fait que je suis constamment tendu comme ça. Ok, mais si ça devait vraiment tomber ? Ce truc, est-ce que je peux le visualiser ? On peut même fermer les yeux. Ça, c'est les techniques des années 1960, c'est les bases de la thérapie. Fermer les yeux et visualiser ce scénario de ce truc qui nous tombe dessus. Et on attend, et on le visualise, on le visualise, on le visualise. Le cerveau, il monte et il redescend après une phase de plateau, ce qu'on appelle l'habituation du neurone. Le neurone redescend parce qu'on le bombarde avec le scénario. Et évidemment, le cerveau, il dit « Ok, ça ne m'intéresse plus ». Et là, vous avez dû lâcher prise parce que vous avez avalé le problème plutôt que le repousser, le tenir à distance. Tant que le cerveau n'est pas OK avec le danger, il ne baissera pas le lâcher prise. Donc c'est pour ça que c'est intéressant cette technique d'identification du problème, pourquoi je suis en hyper-contrôle, puis de visualisation, c'est pas intellectuel, on ne sait pas, oui, mais non, c'est pas une démarche intellectuelle, c'est une démarche viscérale de le visualiser, de le prendre. Comme vous regardez, je ne sais pas, moi j'adore par exemple Afterlife sur Netflix.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est Ricky Gervais, c'est un truc comique et tragique. C'est très drôle, mais c'est pas drôle non plus parce que sa femme est morte d'un cancer du sein. Et vous êtes exposé à la mort pendant 3 saisons que dure la série. C'est très salvateur en même temps parce qu'on en prend plein la gueule. Mm. Et je pense qu'on peut aussi être plus OK avec la mort quand on a regardé une série comme ça. Parce que c'est pas intellectuel, c'est on le voit. Et quand vous visualisez les choses, votre cerveau il redescend par effet d'habituation. C'est typique des thérapies qu'on appelle comportementales et cognitives. Après, qui sont mixées maintenant avec la pleine conscience.
Bon, on m'avait donné une phrase aussi, c'est pas d'acompte sur les soucis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Faites de trop anticiper ce qui va se passer.
si vous êtes OK avec que le risque puisse arriver. Parce que si vous dites « Ah, j'essaye de pas anticiper, mais ça m'emmerderait quand même aussi que ça arrive », non, est-ce que fondamentalement vous êtes OK? Si par exemple vous apprenez sur les réseaux sociaux, là tout à l'heure c'est la pire émission de votre carrière, qu'on a eu un psychiatre et un psychologue nul, si vous êtes OK avec ça, vous n'êtes pas angoissé de commencer votre émission?
Vous n'êtes pas nul du tout, hein, ça j'en suis persuadée.
Ce qui est important, c'est que même une perspective négative le restera. Il ne faut pas imaginer que le lâcher prise fait que tout va être positif. Souvent, l'exemple que je donne, c'est la peur de l'avion. Il y a des gens, ils ont très peur de l'avion, ils voudraient contrôler un truc qui, par définition, n'est pas contrôlable. Ce qu'ils voudraient, dans l'idéal, les phobiques de l'avion, c'est qu'on leur signe que leur avion, juste leur avion, promis juré, celui-là ne s'écrasera pas. Bon, et ils ont très très peur et ils en évitent les voyages en avion. Moi, je suis pas phobique de l'avion. J'aime bien même prendre l'avion. Et même les trucs qu'aiment pas trop les phobiques, moi je trouve ça marrant quand ça décolle, quand ça va, etc. Mais est-ce que je pourrais vous dire que j'y ai jamais pensé? Oui, la dernière fois que j'ai pris l'avion et qu'il y a eu des perturbations, si vous m'interviewez à ce moment-là, vous me dites, t'y as pensé? Oui, j'y ai pensé. Putain, imagine l'avion s'écrase, tu revois plus tes gosses, quelle horreur. J'y ai pensé. Je n'aime pas du tout l'idée, mais elle peut arriver. Et c'est ça qui fait que je peux prendre l'avion. Tandis que si je me disais, j'ai pensé à cette idée, elle ne doit pas arriver, elle ne peut surtout pas arriver, là, je vais être phobique de l'avion. Donc l'acceptation, l'affrontement des peurs n'est pas agréable et le restera. Et c'est ça qui fait qu'on avance mieux dans la vie. Pas que ce soit agréable, que ce soit accepté.
Yasmine Ouglis.
Si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade.
Grand bien vous fasse.
Rafraîchis-toi. Mets-toi à l'aise.
Sur France Inter.
Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre.
Alors, le lâcher-prise n'est pas qu'une affaire d'adultes. Entre l'école et les réseaux sociaux auxquels ils sont exposés de plus en plus jeunes, nos enfants n'échappent pas à la course, à la performance, à la comparaison. Et selon le baromètre du moral des adolescents qui a été dévoilé le 14 mars dernier, un adolescent sur quatre fait l'objet d'une suspicion d'un trouble anxieux généralisé. 45% des ados en France seraient potentiellement concernés par des troubles de l'anxiété. Donc ce sont des chiffres. Philippe Haïm, concrètement, que peut-on proposer à ces adolescents pour qu'ils lâchent prise eux aussi ?
Les adolescents, ils sont soumis tout autant que nous. Moi, quand j'ai commencé à parler du burn-out, on m'a dit « vous parlez du travail des adultes ». J'ai dit « non, mais les ados peuvent être en burn-out, en fait ». Ils sont soumis aux mêmes choses que nous et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, est-ce qu'il y a des espaces de désaturation? Est-ce qu'on peut leur apprendre à faire des exercices de désaturation? Est-ce qu'on peut leur apprendre à prendre du recul par rapport aux injonctions sociales? C'est intéressant d'en parler. Ils sont énormément soumis aux injonctions sociales. Ils sont littéralement nés avec un smartphone dans la main. Voilà, c'est inimaginable. On voit bien qu'ils n'arrivent pas à imaginer un monde où il y avait même pas Internet. Enfin, c'est voilà. Donc, je crois qu'on a le même apprentissage à faire avec eux. Les gens qui ont été beaucoup exposés, hein, on a parlé de la génération Covid, hein, les gens qui avaient entre 9 et 13 ans en 2020, ils ont vécu un moment intensément distant avec les autres, intensément soumis à Internet et aux injonctions sociales des réseaux. Et donc, je pense qu'on peut utiliser exactement les mêmes outils, avoir des espaces de désaturation et toujours avec un peu de bon sens, un peu de nuance. Les couper du monde n'a pas de sens. Vraiment, c'est pas possible. Ils iront sur les réseaux, j'en suis désolé. Ils utiliseront l'intelligence artificielle, j'en suis désolé. C'est comme ça, avec tous les risques que ça comporte. Les exposer pleinement non plus. Un peu de bon sens et peut souvent ramener la paix dans les cerveaux. Et
toujours
cette
histoire de balance et de
oui,
voir...
de nuances, beaucoup nuance, de nuances.
Bien sûr. Alors Marie-Christine, elle nous dit « Quand ma fille de 19 ans est partie pour un an à Tokyo à une époque où les communications n'étaient pas aussi instantanées que maintenant, il a bien fallu que j'accepte de lui faire entièrement confiance et de ne pas savoir toujours où et avec qui elle était. Pas facile de lâcher prise pour la maman, mais on voit qu'elle a réussi. » Alors Vincent Tribou, pour les ados, encore plus que pour les adultes, le regard des autres a un impact très important sur leur morale. Que conseilleriez-vous à un ado qui manquerait de confiance en lui ?
Ah, alors c'est la confiance en soi, c'est tellement complexe. C'est comme le lâcher prise dont on parlait tout à l'heure. Il y a 1000 entrées dans la confiance en soi. Moi, quand je reçois des ados comme ça qui n'ont pas confiance en eux, j'essaie déjà d'explorer qu'est-ce qu'ils n'arrivent pas à faire. Est-ce qu'ils sont suffisamment affirmés? Est-ce qu'ils savent se faire respecter? Et s'ils sont capables de s'autogérer? Est-ce qu'ils ont besoin de papa et maman pour se réveiller le matin? Est-ce qu'ils peuvent programmer leur téléphone? Et notamment, quelle est la place de leurs amis? Est-ce qu'ils ont des bons amis qui les soutiennent, qui sont sympas? Ou est-ce qu'il y a du ménage à faire dans les relations? Est-ce qu'il est obligatoire d'être forcément le plus populaire, d'être bien coiffé, d'avoir des abdos, d'avoir un machin? Évidemment, est-ce que tout ça, c'est pas au détriment? Et j'essaie de travailler avec eux sur ça. À quel moment tu fais les choses pour toi et t'arrêtes d'attendre que machin te dise « Ah ouais, c'est super, tu fais partie du groupe », mais comme fumer subitement quand on arrive en seconde. Ce qui est un non-sens total,
et puis leur apprendre aussi la possibilité de l'échec, et la possibilité de l'échec comme un échec. Encore un peu de nuance et de réalisme, de pas être le parent, on va dire, à l'ancienne, comment ça, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses mieux. Ne pas être non plus en train de dire, mais attends, mais c'est super, si l'enfant dit, là, j'y suis pas arrivé. On peut valider que c'est vrai, tu n'y es pas arrivé. Et c'est OK. Et ce n'est pas, c'est pas la même chose que dire tout est toujours bien dans ce que tu fais ou tout est toujours...
On en revient toujours à cette histoire de nuance. Et en tant que parent, plus que jamais, valoriser nos enfants aussi, je pense que pour la confiance en soi, c'est pas mal. Émilie Pernet, vous les recevez, ces adolescents, notamment en sophrologie, pour les aider?
Oui, tout à fait. Oui, moi, je travaille avec les adolescents. Donc... C'est intéressant, exactement, au niveau souvent du regard des autres, avec le regard des autres, au niveau de l'adolescence.
Oui, c'est des séances qui sont possibles et qui sont évidemment souhaitables pour faire des adultes qui vont réussir à s'autoriser ces petits moments de pause dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle. Un grand merci à vous trois, parce que voilà, vous nous avez offert des perspectives qu'on va pouvoir mettre en pratique. On se rappelle qu'on a eu deux ordonnances. L'ordonnance de la sophrologue, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration et on recommence. Philippe Haïm, votre ordonnance est plus complexe, donc je vous laisse la responsabilité de nous la répéter.
30 secondes, 3 ou 4 fois par jour, ressentez quelque chose et ne faites rien d'autre. C'est très simple.
Alors, Philippe Haïm, je rappelle le titre de votre ouvrage « Je désature, la méthode pour retrouver vos facultés et votre équilibre » publié chez Marabout.
Et je me permets, en plus accessible, jesature.com, il y a plein de vidéos pour apprendre à ça. jesature.com.
C'est très simple, on va le retenir. Émilie Pernet, pour trouver tous vos exercices, votre livre « 5 minutes par jour pour lâcher prise » est disponible chez First et le petit livre du lâcher prise également. Vincent Tribout, devenez votre propre psy, écrit en duo avec la neuroscientifique Anne Heller-Claire chez HarperCollins.
Rends bien vous face, un podcast France Inter.